Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains spécial Saint-Valentin. Aujourd'hui, vous le savez, votre 5-7 célèbre l'amour sous toutes ses formes et ne juge personne. Car l'amour en 2019, ce n'est pas qu'un homme et une femme. Oui, prenons Eva Rock et Céline Dacosta par exemple. Où s'arrête la simple complicité professionnelle et où commence l'ambiguïté érotique?
Deux femmes qui se tiennent la main.
Vive l'amour et vive l'histoire sur Europe 1. Ce matin, à l'heure où le gouvernement veut imposer le drapeau bleu, blanc, rouge dans les salles de classe, notre monsieur Histoire Fabrice Almeida revient sur les obligations à l'école depuis le début du siècle. Ce sera juste après le journal toujours passionnant et exhaustif de Céline Kallmann, une journaliste certes, mais aussi une femme, férue de culture et notamment de séries télé.
Je suis en train de regarder Engrenage. J'ai envie de devenir flic du coup.
Espérons qu'elle ne regarde jamais Orange is the New Black.
Merci d'écouter Europe 1. Nous sommes le jeudi 14 février. Et il est 6h, très bon réveil. Heures, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 14 février. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
La semi-liberté pour Christophe Détinger, l'ancien boxeur a été condamné à un an ferme aménageable immédiatement et il comparaissait pour avoir frappé deux gendarmes début janvier. La fin d'une histoire de 20 ans, Alain Juppé va dire ce matin à ses administrés de Bordelais pourquoi il quitte la mairie, l'ancien Premier ministre entre au Conseil constitutionnel. Et puis Mathieu, nous y sommes enfin, 14 février,
oui,
Saint-Valentin.
Enfin.
Nous irons à la rencontre d'un artiste toulousain, oui si vous le voulez, qui grave nos petits noms sur les bancs publics.
Europe 1.
Ses avocats ont été applaudis par ses amis venus le soutenir. Christophe Détinger a été condamné hier soir à un an de prison ferme. Ses prochaines nuits, il les passera derrière les barreaux, comme depuis son arrestation. Mais la journée, il pourra travailler. Il sera en semi-liberté. Christophe Détinger comparaissait pour avoir frappé deux gendarmes le 5 janvier lors d'une manifestation de gilets jaunes. Écoutez maître Jean-Philippe Morel, avocat des parties civiles. Il salue une décision sage.
C'est une décision équilibrée qui a du sens. Les victimes sont reconnues comme telles. Monsieur Détinger est interdit de manifestation dans Paris pendant 6 mois. L'absence de casier a sûrement pesé dans la décision du juge, mais la gravité des faits a été reconnue. Il a une part importante du sursis est mise à l'épreuve. Donc c'est une décision sage qui rend justice, qui reconnaît la condition de partie civile de l'association de gendarmes et le collectif de gendarmes que je représente. Donc nous sommes très satisfaits ce soir.
Maître Jean-Philippe Morel avec Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Et notez que la cagnotte en ligne ouverte en faveur des forces de l'ordre va être mise aujourd'hui lors d'une cérémonie à l'hôtel des Invalides à Paris. La somme près d'1,5 million d'euros. Il manque la moitié du butin. Le convoyeur soupçonné d'avoir volé plus de 3 millions d'euros à Aubervilliers lundi aurait réussi à se débarrasser de la moitié. En tout cas, après recomptage, il manque une sacrée somme. L'homme de 27 ans est toujours en garde à vue.
À peine relancé, le débat sur la taxe carbone a été recadré par Emmanuel Macron.
Le chef de l'État est resté clair en Conseil des ministres. La hausse de la fiscalité n'est pas la réponse à la colère exprimée par les Gilets jaunes. Hier soir sur LCI, Édouard Philippe a à son tour fermé la porte à un éventuel retour de la taxe carbone.
Il y a des gens qui pensent que la taxe carbone, c'est un impôt intelligent. Je me suis moi-même beaucoup battu pour essayer d'expliquer l'intérêt qu'il y avait à plutôt taxer le carbone qu'à taxer le travail. Donc je ne vais pas vous dire le contraire aujourd'hui, mais j'ai entendu le message. D'ailleurs, je vais vous dire, je l'ai bien entendu. Donc, je ne suis pas favorable à ce qu'on augmente la taxe carbone.
Édouard Philippe, hier soir sur LCI, et c'est lors de cette même émission qu'Ingrid Levavasseur a annoncé qu'elle abandonnait la liste du ralliement d'initiatives citoyennes qu'elle entendait mener pour les européennes. Elle a expliqué vouloir repartir sur de bonnes bases, sans toutefois renoncer. La suite du grand débat national, Emmanuel Macron se rend dans l'Indre. Aujourd'hui, il va échanger avec des maires, mais aussi des chefs d'entreprise.
Europe 1, il est 6h03.
Ses proches sont tombés de l'armoire. Alain Juppé quitte Bordeaux pour entrer au Conseil constitutionnel.
Oui, beaucoup de ses proches, de ses amis même, n'étaient pas au courant. Alain Juppé va tenir une conférence de presse ce matin pour expliquer aux Bordelais pourquoi il s'en va. Écoutez la réaction de Jean-Louis Debré, qui a été président du Conseil constitutionnel entre 2007 et 2016.
Alain Juppé a toujours montré sa liberté d'esprit. Et donc on a besoin d'hommes et de femmes au Conseil constitutionnel qui n'ont plus d'ambition politique. Et là, il décide de faire profiter la République de son expérience.
Alain Juppé, dans le rôle du sage, pour vous, ça correspond ?
Oui, parce que qu'est-ce que c'est qu'un sage ? Un sage, c'est un homme d'expérience, un homme qui a du recul, qui ne se laisse pas entraîner par l'écume des choses. Or, du fait de toute sa carrière, il saura prendre des décisions importantes, même sous la pression ambiante de la société. Et en ça, c'est une bonne recrue.
Jean-Louis Debreu, micro Europe 1 de Lionel Gougelot. Dans l'actualité également, l'école obligatoire dès 3 ans. Vote cette nuit de l'Assemblée nationale. Avant l'âge était de 6 ans. La majorité et l'ensemble de la gauche ont soutenu la mesure.
Céline, enfin, c'est notre soirée, la Saint-Valentin. Et pour vous, je ferai n'importe quoi.
Ah, je le savais, même graver mon nom sur un banc.
Ce serait le minimum que je puisse faire.
Je suis vraiment très touchée. Et bien justement, l'occasion de mettre en lumière le travail d'un artiste toulousain qui vous propose de laisser des mots doux sur les bancs publics. Vous achetez des dédicaces sur internet et cela permet de financer l'achat de ce banc dans une commune. Le premier a été inauguré hier à Toulouse, le reportage de Benjamin Péter.
Pauline n'est pas au courant, c'est Julien qui lui a fait la surprise, un petit mot d'amour sur ce banc installé dans le quartier de la Cartoucherie.
J'ai simplement écrit nos petits surnoms à tous les deux avec un petit cœur. Donc j'ai écrit Nounou et Cacahuète, c'est nos surnoms. Voilà, c'est un petit peu effectivement débile, mais on aime bien.
C'est une très belle surprise, qui nous correspond bien en tout cas.
Comme des dizaines d'autres contributeurs ont laissé un mot doux sur ce banc baptisé Naëlou, une idée de l'artiste toulousain Chamaigre.
J'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'objet où on pouvait laisser des mots d'amour. J'ai décidé de le créer tout simplement et d'en faire un banc. Et se servir du numérique comme livre d'or, faire de sa dédicace. Et quelques mois après, retrouver sa dédicace sur l'espace public. Donc c'est tout ce qu'on peut retrouver un peu sur des pupitres d'école peut-être.
Dès 4 euros, vous pouvez faire graver vos initiales jusqu'à beaucoup plus pour les plus inspiré, Bérangère a voulu offrir cette preuve d'amour à son mari.
J'ai fait la dédicace pour mon amour. C'est sympa de pouvoir avoir notre preuve d'amour ailleurs que dans nos cœurs. On trouvait l'idée très belle et ça égaye aussi la ville. Un peu d'amour, ça fait du bien.
Et ils ont hâte de revenir en amoureux pour déjeuner ou juste profiter du beau temps sur ce qui est un peu devenu leur banc public. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe
1. C'est quoi votre petit surnom à vous ? Cacahuète ?
Cacahuète, mais comment,
non,
vous pouvez, imaginer que mon surnom puisse être Cacahuète?
Ça va, moi.
C'est quoi votre petit surnom?
Le jet d'eau de Genève. Merci, c'était le journal. Ah, vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. Hein. Ah, ben il faut pas me chercher, hein, les enfants.
Pour
la
ceux
cacahuète.
Qui connaissent pas le jet d'eau de Genève, allez voir sur internet. Ouais.
Ça va très haut et très loin.
Et c'est très puissant.
C'était le journal de Céline Kallmann, femme exceptionnelle à plus d'un titre et qui suscite les jalousies tant pour ses compétences professionnelles que pour son étonnante, pour ne pas dire surnaturelle, capacité à garder la ligne après une grossesse. C'est ce que se disait hier Céline et Eva, alias Catherine et Liliane, à sa sortie du studio.
Elle a jamais fait de poids.
Je l'ai pas vue enceinte.
Elle est magnifique.
Non, mais que là, j'imagine, ouais. Elle avait rien. Voilà, c'est ça, pas un gramme ailleurs. Ça, y a pas de justice, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice, Céline, vous êtes bénie des dieux.
C'est voilà. Du travail, hein, croyez quoi?
Ah ouais. C'est du travail au fitness.
Mais m'expliquerai comment?
Puis avoir 3 gosses, ça fait maigrir. Vous
n'avez pas pensé à ça. Merci Céline Kallmann.
Europe 1.
Il est 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire, les amis. Ce matin, alors que le gouvernement envisage d'imposer la présence d'un drapeau tricolore et d'un drapeau européen dans les salles de classe, Fabrice revient sur les obligations à l'école en fonction des époques.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur le temps.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Avec effectivement un temps clément, puisque aujourd'hui, c'est soleil.
Effectivement, encore une très belle journée après dissipation comme les jours précédents de quelques brumes. Elles sont un petit peu plus récalcitrantes dans la vallée de la Saône, près de la Garonne, sur les côtes du Languedoc-Roussillon, puisqu'il va rester quelques nuages bas, un peu de grisaille cet après-midi. Ce temps ensoleillé, on l'aura jusqu'à la fin de la semaine. On aura juste un ciel nuageux qui va se mettre en place samedi et dimanche sur la pointe nord-ouest, entre la Bretagne et le Cotentin. Nuages qui donneront de faibles pluies lundi partout ailleurs. Ce sera encore du soleil.
Merci Céline. Et Varoc.
En cette Saint-Valentin, on vous demande depuis 5 ce matin, si vous vous souvenez de votre première histoire d'amour et de votre première déception aussi, parce que ça marque, et bien sur
souvent
Twitter, oui c'est vrai, avec le hashtag Europe 1, Romarix nous répond, mon premier amour c'était en maternelle, elle s'appelait Céline, je me rappelle qu'on allait se cacher derrière les buissons pour se faire des bisous,
Céline,
et on est resté amoureux jusqu'au moment où on est allé dans deux collèges différents, c'est souvent les collèges.
Ça a duré de la maternelle au collège?
Oui,
belle histoire.
C'est joli, hein. Jean-Pierre il nous dit, lui aussi c'était à la maternelle, elle s'appelait Prune, et puis au lycée, en revanche Émilie, elle le trompait et elle lui mentait, donc à chaque fois comme un idiot il revenait vers elle, mais ça a été sa première déception amoureuse.
Bon, depuis il est vacciné, il fait gaffe.
Continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Merci beaucoup.
Merci à tous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le garçon qui nous rejoint à présent pour le journal des sports vit une journée particulière. Il s'est rasé un peu plus méticuleusement que d'habitude, a mis quelques pchites de plus de dracard noir sous les bras. Car en cette Saint-Valentin, c'est un homme tiraillé entre deux femmes, la sienne et celle de Monsieur Dacosta. Situation complexe, de plus en plus borderline, puisqu'après avoir longtemps été extrêmement discret, Céline et Jérôme Lacroix envoient désormais à l'antenne des messages de moins en moins subliminaux à leurs conjoints respectifs.
Changer de vie,
changer d'amour,
changer. Bon, là, ils vont commencer à se douter d'un truc, les gars. Hein. Allez, on passe au journal des sports. À la une onéreuse Saint-Valentin, Jérôme.
Il sera bien peu question d'amour aujourd'hui au Prud'homme de Toulouse. Règlement de compte entre la Fédération française de rugby et Guy Noves, l'ancien sélectionneur des Bleus limogés il y a 14 mois pour mauvais résultats. Il entend prouver le caractère abusif de son éviction. Il réclame 2 900 000 euros, histoire de faire payer moralement aussi ce qu'il estime à l'origine d'une humiliation publique. Le président de la Fédération, Bernard Laporte, assure sur Europe 1 que l'institution s'est préparée et qu'elle a les reins solides.
On a provisionné 2,5 pour le staff. Bon, il y a un procès qui aura lieu. Ben, si jamais c'est pas autant, c'est autant d'argent. On les a provisionnés, pour le moment, on les a pas dépensés. Alors, il n'y a aucun souci d'argent. Les fonds de la Fédération française de rugby, entre le fonds dédié aux assurances et la trésorerie propre de la Fédération, on doit être dans les 75 à 85 millions d'euros. Donc il n'y a aucun souci en termes de trésorerie à la Fédération française de rugby.
Bernard Laporte qui ne sera pas présent à l'audience. C'est Jacques Brunel qui a succédé à Guy Noves à la tête des Bleus, sans grande amélioration. Et comme on ne change pas une équipe qui perd, bien sûr, Brunel a reconduit pour le prochain match destination face à l'Écosse dans 10 jours les 31 mêmes joueurs qui ont perdu en Angleterre.
Il n'en a peut-être pas d'autres en même temps. Le football et la bonne opération des Stéphanois.
Les Verts, 4e de Ligue 1 ce matin, après hier un succès de 1 contre Strasbourg. Par ailleurs, victoire 1-0 de Nantes à Caen, deux matchs en retard de la 23e journée. 60e but en Ligue des Champions pour Karim Benzema, le Français 4e meilleur buteur de l'histoire de la Grande Coupe d'Europe des clubs. But inscrit hier soir avec le Real Madrid pour une victoire 2-1 à Amsterdam face à l'Ajax en 8e de finale. Aller rencontre au cours de laquelle, pour la première fois en Ligue des Champions, un but a été refusé, annulé après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage. Dans l'autre match, succès 3-0 à Londres de Tottenham face à Dortmund, match retour le 5 mars.
Jérôme, vous avez dit que Karim Benzema était le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions.
Après Ronaldo, il a plus de 120.
De le dire. Moi, je
il a
pas
plus
du
de 120, Ronaldo, il est loin devant. Mais
c'est quand même assez incroyable. Ce soir, place à la Ligue Europa, Jérôme, avec un club français.
Rennes, les Bretons reçoivent en 16e de finale aller les Espagnols du Betis Séville, actuel 7e de leur championnat. Rennes emmené par un tout jeune entraîneur, 38 ans en poste depuis 2 mois. Il s'appelle Julien Stéphan. C'est le fils de Guy Stéphan, actuel bras droit sportif de Didier Deschamps chez les Bleus. Julien Stéphan se prépare à vivre l'un de ses premiers grands vertiges.
C'est vrai qu'il y a un engouement très fort dans la ville et je suis convaincu qu'il y aura une atmosphère incroyable dans le stade avec nos supporters. Il va falloir bien maîtriser ses émotions, pas confondre la motivation avec l'excitation et bien réfléchir à ce qu'on va proposer, à ce qu'on va mettre en place.
Rennes, Betis, Séville, 18h55.
En fait, on termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
L'un des meilleurs amis d'Emiliano Sala, Nicolas Palois, défenseur de Nantes, se rendra aux obsèques du footballeur en Argentine aux côtés d'un représentant du club où l'attaquant a joué 3 saisons et demie. Le corps doit être rapatrié demain et la cérémonie est prévue samedi dans le village d'enfance d'Emiliano Sala.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, de grâce, faites gaffe à être plus discret quand vous draguez Céline. Si jamais votre femme comprend ce qui se trame, vous savez ce qui vous attend.
Oui, quick.
Hey, oui, quick, comme vous dites. Bref, changeons vite de sujet en passant à la rubrique histoire de cette matinale.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Le gouvernement a décidé de placer des drapeaux français et européens dans toutes les classes. C'est un changement historique, ça.
L'école, il faut le dire, en France, est inséparable d'un modèle historique, celui de la Troisième République.
Oui.
Une école conçue pour permettre le redressement de notre pays après la terrible défaite de 1870. Les instituteurs devaient apporter à nos enfants le savoir nécessaire pour établir notre place dans le monde. Sur les murs des classes, sur les milliers de photos dont on dispose, on voit d'abord des cartes. Des cartes qui présentent notre territoire avec l'Alsace-Lorraine, figurée en noir, les provinces perdues. Les petits Français, où qu'ils soient, savaient qu'ils partageaient un même pays. Dans les salles de classe, prévalait le matériel pédagogique.
Quand les drapeaux sont-ils entrés dans les écoles ?
Bah, le bleu, blanc, rouge a orné les immeubles des Amis de la Liberté dès 1789 et nos navires de guerre à partir de 1794. Mais c'est seulement avec la Troisième République à partir de 1879 que les écoles en accueillent au fronton ou dans les préaux avec les Mariannes pour les remises de prix. Les rendre obligatoires dans les classes, même les fondateurs de ce régime ne l'auraient pas envisagé. L'éducation devait se distinguer de l'embrigadement.
Est-ce que d'autres régimes français ont introduit des éléments de patriotisme à l'école ?
Bah alors, sans offenser personne, hein, le plus ardent a été Pétain. Discours aux élèves avec écoute obligatoire dans les salles, portrait du maréchal dans les classes et affiche avec le liseré bleu, blanc, rouge. Bien plus tard, le président Mitterrand, en 88, a fait lire aux enfants un texte de Victor Hugo sur notre devise. En 2007, Nicolas Sarkozy, le premier président à avoir eu sur son portrait officiel le drapeau français et européen, a fait lire aux lycéens la dernière lettre du résistant Guy Moquet. Les résultats, faut le dire, sont peu concluants. La nouvelle mesure symbolique ne compensera pas le lent travail éducatif et familial nécessaire pour faire un vrai citoyen.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'infos, de rire et de grandes questions d'actu. Par exemple Céline, le réchauffement climatique.
C'est pas bien, c'est mal.
On est tous d'accord. Et voilà justement que depuis quelques jours, des voix se font entendre au sein de la majorité pour demander la hausse de la taxe carbone. Cette mesure destinée à lutter contre les émissions de CO2 et donc le réchauffement climatique était pourtant précisément celle qui avait provoqué la colère initiale des Gilets jaunes. Les défenseurs de ce projet évoquent une hausse socialement acceptable. Qu'est-ce qu'une hausse socialement acceptable ? Nous posons la question à un expert, Benoît Légué, directeur de l'Institut I4C, l'Institut de l'économie pour le climat. Mais d'abord, une sympathique parenthèse musicale. Voici Calogero, on se sait par cœur sur Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures menées tambour battant par une équipe soudée, mue par une authentique passion de l'info et un esprit corporate qui fait que jamais quiconque ici n'oserait se foutre de la gueule d'une bande-annonce maison.
Mieux comprendre, mieux se comprendre.
Du digital, de l'innovation, de la réflexion.
Et du potiron.
On est bien sur Europe 1.
Bah dis donc Céline, ça va pas ? À suivre.
C'était pour la rime.
La hausse de la taxe carbone à nouveau dans les tuyaux. N'était-ce pas précisément cette hausse qui avait déclenché la colère des Gilets jaunes en octobre dernier ? Si, le calendrier est-il donc judicieux pour ces députés qui proposent de remettre le sujet sur la table, ou bien le combat contre le réchauffement climatique doit-il repasser au premier plan ? Élément de réponse avec Benoît Légué, directeur de l'I4C, l'Institut de l'économie pour le climat.
Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Christophe de Tinger, condamné à 1 an de prison ferme, aménageable en semi-liberté. L'ancien boxeur était jugé pour avoir violemment frappé 2 gendarmes le 5 janvier lors de la 8e mobilisation des Gilets jaunes. Il manque environ 1,5 million d'euros dans le butin des convoyeurs de fonds interpellés à Amiens. Le jeune homme de 27 ans avait disparu à Aubervilliers lundi avec 3 millions d'euros dans son fourgon. Enfin, l'ancien Premier ministre Alain Juppé est en passe de succéder à Lionel Jospin au Conseil constitutionnel. Il va donc quitter la mairie de Bordeaux.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce jeudi 14 février et l'actualité également. C'est ses propos. Ils sont sourds, ils veulent la révolution. Propos de Gilets jaunes sur Facebook en réaction à la proposition de ces députés de la majorité qui veulent remettre la taxe carbone sur la table. La taxe pourtant qui avait déclenché la colère des Gilets jaunes en novembre dernier. Pourtant ces derniers jours, des membres de la majorité ainsi donc que 86 députés ont appelé à ne pas abandonner cet outil et à en parler lors du grand débat national. Bonjour Benoît Légué.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Institut de l'économie pour le climat. Rappelez-nous d'abord le principe de cette taxe carbone qui a été créée en France en 2014.
Alors effectivement, une taxe créée en 2014 qui vise à taxer le contenu carbone des différentes énergies. C'est-à-dire très concrètement, ça vise à augmenter le prix, le coût du gazole, de l'essence, du charbon, du gaz naturel, du fioul, etc., etc.
Alors, on se souvient que c'est l'augmentation de cette taxe qui avait déclenché la colère initiale des Gilets jaunes. Le remettre sur la table aujourd'hui, c'est utile, c'est nécessaire ou bien c'est suicidaire de la part des députés, de la majorité en tout cas ?
Alors, c'est nécessaire si on veut réaliser la transition énergétique et répondre aux objectifs de l'accord de Paris. C'est pas simplement pour faire plaisir à la communauté internationale, c'est aussi pour, entre guillemets, faire plaisir à la France et assurer sa compétitivité sur le long terme. C'est ça qui est important et il me semble en tout cas, une taxe n'est pas indispensable mais ça fait partie des outils qui seront utiles pour assurer cette transition.
C'est partie de l'arsenal qui est à notre disposition contre le réchauffement climatique. Et cette taxe a été perçue, on s'en rappelle, comme injuste. À quoi devrait ressembler selon vous une taxe carbone qui serait socialement juste ?
Alors, si j'ai un tout petit peu de temps, il y a 4 points là-dessus.
Alors, abordons ces 4
qui me semblent importants parce qu'on a regardé dans 2 douzaines de pays ce qui se passait. Mmh. Parce qu'en fait, la France n'est pas le seul pays à avoir tenté de mettre en place une taxe carbone et n'est pas le seul pays à avoir eu des difficultés. Donc ça, déjà, le premier message, il y a plein d'autres pays qui ont essayé de le faire. beaucoup de pays qui ont réussi.
Ah, il y en a qui ont réussi quand même.
Il y en a beaucoup qui ont réussi, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça, c'est déjà le premier message pour tranquilliser tout le monde en France. En Indonésie, ils ont mis 25 ans.
Ah oui, ils s'y sont pris plus tôt que nous.
En 88, et ils ont fini en 2014 pour simplement, pas mettre un prix du carbone positif, mais simplement réformer les subventions aux énergies fossiles, c'est-à-dire les faire sauter. Donc 25 ans, voilà. Donc en France, bon, on peut encore...
Oui, mais on n'a pas ce temps-là aujourd'hui, si on veut lutter contre le réchauffement climatique.
On est un petit peu plus pressé. Alors en fait, pour une taxe carbone, j'allais dire acceptable, il y a plusieurs éléments qui nous sont donnés par les exemples étrangers. Premier élément, il faut être clair sur ce qu'on fait avec l'utilisation des recettes. Je pense qu'on
il
peut dire que
c'est transparent.
Ça, transparent, ouais. Vraiment transparence. Un euro prélevé, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça va être versé aux ménages, aux entreprises? Qu'est-ce qu'on va en faire? Deuxième élément, et là c'est l'étape d'après, c'est le narratif, c'est-à-dire le récit politique, la vision. À quoi ça sert ce truc? Vers quoi ça nous
emmène?
Mais
justement, est-ce que dans le climat gilet jaune un peu du pays en ce moment, est-ce qu'on est prêt à entendre ce discours-là?
Mais en tout cas, ce discours n'a pas été formulé. Il n'a pas été formulé, et c'est peut-être une des graves erreurs de l'exécutif. Alors c'est très facile à dire ex post, hein, depuis un studio parisien, mais en tout cas, je pense que c'est une des raisons qui ont fait que les gilets jaunes n'ont pas compris vers quoi on voulait les emmener. Quand vous ne savez pas vers quoi on vous emmène et qu'on vous y traîne de force, en général, vous renaclez un petit peu. Enfin, c'est un résultat tout à fait normal.
Entre nous, ils ne sont pas prêts de comprendre, hein, puisque François de Rugy dit que le sujet est à nouveau sur la table, donc le ministre de l'écologie. Pendant ce temps, Édouard Philippe, hier soir, dit sur LCI « J'ai bien vu qu'on était entré dans cette crise par l'augmentation d'une taxe. Je ne vois pas qu'on puisse en sortir par l'augmentation d'autres taxes ou la même. » Donc c'est un peu mal barré pour l'explication.
Alors, c'est les deux derniers éléments qui manquent pour qu'une taxe soit vraiment acceptable et acceptée.
Ouais.
Premier point, il y a une nécessaire contrepartie sociale. C'est-à-dire une taxe carbone, c'est par nature régressif. C'est-à-dire que ça vient impacter plus fort les ménages aux modestes revenus.
Et oui, c'est tout le problème.
C'est tout le problème. Et donc, comme c'est régressif, il faut corriger cette régressivité.
Et comment?
C'est très simple. En redistribuant l'argent qui est levé grâce à la taxe carbone, mais en la redistribuant proportionnellement
vers
plus.
Vers les petits ménages.
Vers les ménages aux faibles revenus, etc. C'est ce qu'a fait, par exemple, la Suisse.
Ah,
la Suisse a baissé les primes de santé pour tout le monde. C'est ce qu'a fait l'Iran, qui a refait un paiement forfaitaire pour tout le monde, ce qui veut dire que les ménages modestes, évidemment, ont été beaucoup plus intéressés que les ménages riches. Et puis, le dernier élément qui semble... Alors, pour un économiste, c'est un peu contre-intuitif, mais en tout cas, en réelle politique, ça marche. Il faut manifestement investir une partie des recettes en faveur de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'une partie des recettes doit être dédiée au financement de projets, de choses qui rendent la transition énergétique tangible.
Ce que vous nous dites là, c'est dans les tuyaux ou c'est vous qui le proposez?
Alors ça, c'est ce qu'on voit dans les deux douzaines de pays qu'on a étudiés.
D'accord.
À l'étranger. C'est vraiment ce qui semble marcher. Donc, il ne s'agit pas d'une recette miracle, mais en tout cas, c'est ce qui a marché dans
on
les autres pays.
On peut s'inspirer de ça.
On peut s'en inspirer, c'est une boîte à outils.
Merci beaucoup Benoît Léguet, directeur de l'Institut de l'économie pour le climat, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1.
Europe 1, il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient, le soleil brille pour la Saint-Valentin.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Juste avant le journal de 6h30, on fait un point sur la météo du jour avec vous, Céline Dacosta. Une très belle journée pour cette Saint-Valentin.
Oui, c'est vrai, encore beaucoup de soleil, surtout cet après-midi. On aura à peine quelques nuages bas sur les côtes du Languedoc-Roussillon, du Morbihan ou encore du sud du Finistère. En revanche, ce matin, encore comme depuis le début de la semaine, des brumes, localement du brouillard. Après dissipation de ces brumes, on l'a compris, le ciel sera dégagé, les températures sont fraîches ce matin. Cet après-midi, en revanche, et grâce au soleil, on aura un petit air de printemps, une moyenne de 11 à 17 degrés du nord au sud. Aucune température sous la barre des 10 degrés, il en fera 13 à Paris, jusqu'à 18 degrés à Biarritz.
Merci Céline, à suivre dans une minute. Soyez là, soyez tous là. Le journal de David Doucan arrive.
Europe 1,
5h, 7h.
Mathieu Noël. Et les 6h29, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures de fantaisie burlesque, de journalistes rigoureux et surtout, d'abnégation. Car oui, chers auditeurs, loin de moi l'idée de me jeter des fleurs, mais c'est un quasi-miracle si j'ai pu hier mener cette émission à bien, car j'ai été victime d'une terrible maladie, aussi grave que foudroyante, que les spécialistes appellent le rhume. Et pourtant, n'écoutant que mon courage et mon amour du public, je suis venu. Tu peux baisser la lumière, s'il te plaît? Je vais tout donner pendant 2 heures. Ah, mais je vais m'effondrer après, mais moi je donne tout pour mon public. Eh oui, lui aussi donne tout pour son public. Voici le journal de David Doucan.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici donc le journal de l'inimitable David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
C'est la fin d'une aventure à 10 milliards d'euros. Airbus vient d'annoncer la fin de la production de l'A380. Les livraisons du Jumbo Jet cesseront en 2021. Finalement, il manque 1,5 million d'euros. Les policiers ont recompté frénétiquement. La moitié du butin du convoyeur d'Aubervilliers s'est évanouie dans la nature. Alain Juppé entre au Conseil constitutionnel, surprise générale, en particulier à Bordeaux, où ses proches pensaient qu'il briguerait un nouveau mandat de maire en 2020. Et enfin, nous irons au théâtre, Mathieu. Molière fait toujours recette. En ce moment, c'est Lambert Wilson qui interprète le misanthrope à Paris.
Europe 1.
Nous l'apprenons à l'instant, Airbus annonce la fin de la production de l'A380. On estime l'échec commercial du Jumbo Jet à 10 milliards d'euros pour la compagnie franco-allemande. Mais les compagnies aériennes n'achètent pas, les livraisons cesseront en 2021. C'est un petit coup de théâtre dans l'affaire du convoyeur d'Aubervilliers. Les policiers chargés de l'enquête pensaient avoir retrouvé la quasi-intégralité des 3 millions dérobés. Mais après avoir recompté plusieurs fois, il s'avère finalement qu'il en manque la moitié. Où est donc passé ce 1,5 million d'euros ? Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1.
Ils ont recompté frénétiquement, les enquêteurs de la BRB, toute la journée d'hier. Recompté les billets des sacs récupérés à Amiens dans la voiture d'une femme et dans l'appartement où le convoyeur s'était réfugié. Une quantité telle que dans les premières heures, les enquêteurs ont eu la faiblesse de croire que le compte y était, ou presque. Sauf qu'au lieu des 3 100 000 euros dérobés dans le fourgon de la Loomis, ce sont à peine 1,5 million qui ont été retrouvés. Il en reste plus encore dans la nature, entre la Seine-Saint-Denis et la Somme, à moins que ces billets ne soient déjà loin. En 36 heures de cavale, le principal suspect n'a pas manqué de solution pour faire disparaître une partie du magot, pronostique un enquêteur, en solo ou en équipe, s'il a eu des complices, piste évidemment explorée par les policiers. En même temps qu'ils interrogent le convoyeur de 27 ans, ils questionnent depuis avant-hier la femme de 28 ans qui conduisait le fameux monospace chargé de sacs de billets et chez qui ont été retrouvées également les deux armes de service du convoyeur lors de sa tournée de lundi matin. Une hypothèse très crédible de complices qui les ont aussi amenés à entendre la locataire de l'appartement d'Amiens et son frère sur ce qu'ils savaient du convoyeur et des raisons de son séjour chez eux.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. L'ancien boxeur Christophe Détinger a été condamné à 1 an de prison ferme en semi-liberté. Cela signifie qu'il dormira en prison mais pourra travailler pendant la journée. Le tribunal a également décidé d'une interdiction de séjour à Paris pendant 6 mois. Il devra aussi indemniser ses deux victimes, respectivement à hauteur de 2 000 et 3 000 euros. Je vous rappelle qu'il avait violemment frappé 2 gendarmes mobiles le 5 janvier dernier lors du 8e samedi de violence dans la capitale. Le secret avait été bien gardé. À la surprise générale, Alain Juppé est nommé au Conseil constitutionnel. C'est le choix de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, à Bordeaux, qui va donc perdre son maire. Personne ne s'y attendait. Même les élus les plus proches d'Alain Juppé n'ont rien vu venir. Reportage de notre correspondant Stéphane Place.
Des élus locaux qui tombent de l'armoire, pour reprendre l'expression de l'un d'eux. Une surprise totale hier ici à Bordeaux à l'annonce de cette décision. Stéphane Delot est un proche d'Alain Juppé, l'un de ses adjoints fidèles parmi les fidèles.
Ça fait 24 ans que je suis son adjoint. On a envie de lui dire merci, même si on est, c'est vrai, un peu sous le choc de l'émotion.
Et de la surprise, il n'y a rien qui avait filtré ?
Strictement rien. J'ai vu déjà un certain nombre de mes collègues, ils n'en savaient pas plus.
En réalité, Alain Juppé, il l'a écrit hier dans un bref communiqué, a décidé il y a plusieurs mois de ne pas se représenter en 2020. Mais il ne comptait l'annoncer qu'au lendemain des européennes, fin mai. C'est sa nomination au Conseil constitutionnel qui bouleverse ce calendrier. Pierre Urmic, élu écologiste d'opposition.
Moi, je pense que c'est jamais une bonne nouvelle de quitter un mandat avant la fin. Pendant un an, il ne se passera rien. De toute façon, il va y avoir là un maire intérimaire. Il ne faudrait pas que Bordeaux soit de nouveau la belle endormie qu'on a connue pendant trop longtemps. Et la bonne nouvelle, c'est que le jeu politique est beaucoup plus ouvert en 2020 qu'on ne le pensait jusqu'à présent.
Alors qui, pour succéder au maire de Bordeaux et président de la métropole, d'abord pour assurer l'intérim jusqu'à l'an prochain, avant de rejoindre le Conseil constitutionnel, Alain Juppé tiendra une conférence de presse ce matin et en profitera probablement pour indiquer ses préférences. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Jacques Mézard, ancien ministre des Territoires, va lui aussi faire son entrée au Conseil constitutionnel. Ce très proche du président est nommé par Emmanuel Macron. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a pour sa part désigné le sénateur d'hiver droite du Cher, François Pillet. Ces trois nominations doivent encore être validées par les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais c'est une formalité. Une petite pique de la part d'un Premier ministre à l'endroit de son président. Cela peut arriver. Interrogé hier soir sur LCI au sujet des petites phrases d'Emmanuel Macron, en particulier celle où il enjoignait un chômeur à traverser la rue pour trouver du travail, Édouard Philippe a répondu, je cite, « Moi, J'essaye de faire toujours très attention à la façon dont je m'exprime.
À suivre dans ce journal, vous vous souvenez de la prime à la conversion, 4000 euros promis par l'État pour changer de voiture? Et bien dans la pratique, les choses ne sont pas si simples. L'acheteur doit bien souvent avancer l'argent. A tout de suite.
Il est 6h35.
La suite du journal David Doucan, la super prime à la conversion pour changer de voiture.
Oui, 4000 euros promis par le Premier ministre cet automne, c'était l'une des premières réponses du gouvernement face à la crise des gilets jaunes. Et bien cet argent, il ne tombe pas du ciel aussi facilement qu'on aurait pu l'espérer, comme en atteste ce reportage signé Romain Oquet.
Pas d'avance sur la prime, voilà ce que me répond ce vendeur de région parisienne quand je me glisse dans la peau d'une acheteuse.
Là maintenant, il y a plein de critères, il faut rentrer dans les bonnes cases. J'ai des collègues qui sont déjà trompés et du coup, on n'a pas touché l'argent. Et il est pratiquement un an à rembourser. On vend 4000 véhicules à l'année, si on en a 1000 qui sont concernés, on a 100 000 euros dehors, quoi. Donc nous, on ne peut pas prendre ce risque-là. Pour nous, c'est un petit peu de l'enfumage.
Résultat, c'est au client d'avancer les 4000 euros. Et ce n'est pas un cas particulier. À Auxerre, Dijon, Albertville, des vendeurs qui refusent de débourser cette prime et ils en ont le droit. Beaucoup sont échaudés par les promesses de remboursement de l'État, explique ce responsable du Conseil national des professions de l'automobile.
Nous, on avait fait un tour de nos adhérents là, en fin 2018. On était à plus de 80 millions d'euros d'attente de remboursement déjà. Pour une PME de 20-30 salariés, ça pèse de façon très significative sur une trésorerie et ça peut mettre en péril une entreprise.
L'État est bien au courant du problème. Il a décidé de prendre les choses en main. Le ministère de l'écologie a créé il y a quelques jours un fonds de roulement pour rembourser les vendeurs au fur et à mesure.
Romain Oquet pour Europe 1. Le Macron Show continue aujourd'hui et fait étape dans l'Indre. Le président de la République débattra avec les maires du département à partir de midi. Il échangera ensuite avec des chefs d'entreprise à 16h.
David, vous nous aviez promis de nous emmener au théâtre.
Oui, et je tiens toujours mes promesses.
Bah, je le sais.
Connaissez-vous Molière?
J'en ai entendu parler durant mes études.
Jean-Baptiste Bouquelin.
Il écrivait des petites pochades, je crois.
Tout à fait. Sachez que Lambert... Des pochades, n'importe quoi. Bon. Lambert Wilson interprète en ce moment le misanthrope à Paris. La première représentation avait lieu hier soir au Théâtre Libre, anciennement la Comédia. Thierry Geffrotin.
C'est peut-être pour vous un mauvais souvenir de collège ou de lycée. Oubliez ce Molière scolaire. Avec Lambert Wilson en misanthrope, vous allez vous régaler.
Je veux qu'on soit sincère et qu'un homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.
Ce qui est formidable, c'est qu'il faut être très mobile dans ses émotions, passer de l'exaltation suprême à l'abattement le plus noir, des larmes à l'ironie, c'est génial.
Vous êtes presque convaincu, mais vous allez encore me dire « Ah, il y a les alexandrins, les vers, les rimes, c'est vieux !» Pas du tout, répond Lambert Wilson.
Peter Stein, notre metteur en scène, a été très spécifique. Il voulait que cet alexandrin fût compréhensible par le public. Il nous a fait sortir des mots pour que la phrase soit très 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 bien construite et évidente pour une oreille moderne, ce qui n'est pas facile. Et je pense qu'il nous a aidé à clarifier tout ça, oui.
Reste le sujet de la pièce. Évident, me direz-vous, c'est un homme qui déteste tous ses semblables. Eh bien non, c'est surtout une histoire d'amour. Le misanthrope est jaloux et comme le dit si joliment Molière, il a le chagrin bourru.
Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1.
Ouais, le misanthrope imaginaire, pièce magnifique.
Oh là là.
Mais si, merci David, c'était le journal de celui que je trempe dorénavant au moment de le désannoncer, vu qu'il paraît que je ne l'annonce pas avec suffisamment d'emphase. Il est vrai que dans le genre annonce de match de boxe pour un titre mondial au Madison Square Garden, Nikos Aliagas fait mieux.
Ben. David Doucan pour le journal de 8h.
Je vais tenter un... C'était le journal de David Doucan bah, non, c'est pas terrible. Bon, je fais pas le quoi.
Prenez-en de la graine.
J'essaie, mais c'est difficile. Moi, je présente pas The Voice.
Voilà, ça, c'est un
j'ai
professionnel.
J'ai pas cette aptitude à monter comme ça dans les tours pour vous vendre. David, contentez-vous de ce que vous avez.
Prenez des leçons. Hein.
On passe au temps.
Et vous profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. Rénoval vous présente la météo.
Un temps vraiment réussi aujourd'hui,
hein.
Un beau
dire.
Temps,
oui,
ensoleillé pour cette Saint-Valentin.
Du soleil, c'est vrai, beaucoup de soleil, même après dissipation de ces quelques brumes matinales. Des températures fraîches ce matin, couvrez-vous, ça va se radoucir cet après-midi avec une belle moyenne, 11 à 18 degrés du nord au sud, il en fera 13 à Paris, jusqu'à 18 degrés du côté de Biarritz.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire, à suivre. Politique, économie, médias, laissez les trois fantastiques vous guider dans la jungle de l'actu au programme en reportage visuellement impressionnant ce soir à la télé. Le comeback d'Edouard Philippe. Quant à Axel de Tarlet, il évoquera un record, le record à l'exportation pour les vins et spiritueux. Même si à écouter Axel, certains matins on se dit qu'on n'exporte pas tout, hein. On en garde visiblement un peu quand même.
Avec une valeur boursière de 797 milliards de dollars, c'est l'équivalent du
PIB des Pays-Bas, ça vous embouche un coin.
Hein, on s'en garde un peu sous le coude, oui.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Nous venons de l'apprendre ce matin, Airbus annonce la fin de la production de l'A380. Ce jumbo jet a coûté 10 milliards d'euros à la compagnie franco-allemande, mais les compagnies aériennes n'achètent pas. Les livraisons cesseront en 2021. Jusqu'au bout, le secret aura été bien gardé. Alain Juppé entre au Conseil constitutionnel, nommé par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Celui du Sénat a choisi le sénateur d'hiver droite du Cher, François Pillet. Emmanuel Macron envoie quant à lui, rue Montpensier, son ancien ministre Jacques Mézard. Enfin, un an de prison ferme en semi-liberté pour Christophe Détinger. Ça signifie qu'il dormira en prison, mais pourra travailler pendant la journée. Pour rappel, il avait violemment frappé deux gendarmes mobiles lors de la 8e journée de mobilisation des Gilets jaunes à Paris.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Certes, la Saint-Valentin est la fête du couple, mais diable, soyons modernes. En 2019, la Saint-Valentin, c'est aussi, pourquoi pas, la fête du trouble. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarly pour l'économie. Voici la version moderne de Jules et Jim, les trois fantastiques. Ils s'aiment d'un amour sincère, un amour qui fut palpable hier au moment de l'anniversaire surprise d'Axel de Tarly. Un anniversaire qui, chers auditeurs, a pu vous paraître un poil cheap. J'essaie d'actionner la bougie pour l'anniversaire d'Axel de Tarly parce que figurez-vous.
Non mais je vais la souffler,
c'est
parce
une
que ça
bougie
va déclencher.
Musicale, mais ça ne marche pas.
Voilà.
Non, non.
Voilà. J'ai 49 ans donc, et un jour, mais je ne l'ai fait pas.
Mais rassurez-vous, ce qui attendait Axel hors antenne était beaucoup plus excitant.
Mais viens au bureau après, t'as une autre surprise.
La danseuse nue.
Là, je retrouve le showbiz tel que je l'avais imaginé en rejoignant ce milieu. Alors, commençons par la politique avec vous, Mickaël.
Rassure, Madame de Tarly, c'était pas ça. Hein,
c'était
pas
oui, voilà. Évidemment, c'était faux. Édouard Philippe était hier soir face à des Français sur LCI. Un Premier ministre très présent dans les médias depuis quelques temps. Est-ce une manière de préparer lui aussi son acte 2 du quinquennat ?
Alors hier, c'était la grande explication, hein, le titre de l'émission bien trouvé de David Pujadas. C'est d'ailleurs dans tous les sens du terme face à des Français qui ne l'ont pas ménagé. Et le Premier ministre s'est montré direct et cash, histoire de dire qu'il n'y a pas que lui qui sait faire le titi parisien. « Je n'ai pas fait ça pour emmerder les Français », s'est exclamé Philippe à propos de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les petites routes. C'était aussi, surtout, une séance de relooking d'image, comme on dit. Hein. Quand il termine l'année, Édouard Philippe n'est pas en grande forme et à Matignon, on se dit que le temps des cartons approche peut-être, mais voilà, la politique c'est l'art du rebondissement. Emmanuel Macron envoie dès début 2019 un signal, pas question donc pour sortir de la crise de dissoudre ou de changer de Premier ministre, mais il y a aussi, dit-il, donc la vie politique, répète le président devant la presse. Donc il faut dire aussi que pour les Gilets jaunes, au fond c'est comme si le chef du gouvernement n'existait pas. Son nom n'est jamais tagué sur les murs pendant les manifestations, c'est toujours Emmanuel Macron qui est visé. Voilà donc Édouard Philippe qui peut tranquillement préparer la suite, quoi qu'il arrive, parce que tout est clair avec le président de la République. Dès le début, il a accepté la règle. Le patron, c'est Macron. Et de l'extérieur, on pourrait même dire que Macron fait tout et Philippe le reste, mais c'est évidemment un peu plus compliqué.
Alors, qu'est-ce qui fait courir Édouard Philippe en cette deuxième année du quinquennat ?
Alors, il cultive l'authentique, hein, comme dirait Pagnol, hein, au risque d'étonner. La semaine dernière, par exemple, lors d'un déjeuner à l'Élysée avec les présidents des deux assemblées, on a constaté qu'il contredisait sans embâche le président. Pas chaud pour une nouvelle phase de décentralisation, pas chaud non plus pour un référendum autour de la table. Je peux vous dire qu'on ouvrait des yeux ronds. Mais il reste dans son couloir, n'a pas adhéré en marche, il se heurte souvent à des députés qui trouvent sa politique trop à droite, trop raide. Alors qu'en réalité, c'est un bobo, hein, il faut le savoir. Alors il va assumer, hein, il va faire du Philippe, élu local, intellectuel, écrivain. Toutes les possibilités donc sont devant lui, y compris de rester en politique. Il avait un rêve, faire 5 ans à Matignon. Et si ce n'est pas le cas, bah, il aura comme été le grand gagnant, l'autre gagnant de la présidentielle. Parce que figurez-vous que si Alain Juppé, qui quitte aujourd'hui la vie politique, son père spirituel avait été élu à l'Élysée, jamais il n'aurait été nommé à Matignon. Donc Matignon, ce n'est pas un enfer pour Philippe, c'est plutôt son paradis blanc.
Oh, Mickaël Darmon, merci beaucoup pour cet éclairage politique. On passe à l'économie. Avec celui qui adore les vins et spiritueux, hein, on va le dire, mais heureusement, même s'il en consomme beaucoup, il en reste un peu pour l'exportation, visiblement, puisqu'on fête ce record à l'exportation des vins et spiritueux.
Oui, et ce n'est pas anodin, parce que vous savez, on a eu les très mauvais chiffres du commerce extérieur, moins 59 milliards d'euros pour l'année 2018, mais on a des secteurs très performants à l'extérieur, et on peut dire merci à nos vignerons, puisqu'ils ont aligné un excédent commercial de 11,7 milliards d'euros pour l'année 2018. C'est le deuxième plus gros poste de notre commerce extérieur après l'aéronautique. Donc les exportations de vins et spiritueux progressent à nouveau, hein, plus 2,4% l'an dernier. Alors, à votre avis, quel est l'alcool le plus exporté à l'étranger? Donc,
c'est pas le vin.
C'est un alcool à la mode,
exactement.
Je vais y arriver, qui est le cognac.
C'est le cognac qui a dépassé le champagne, on en exporte.
Pour les cocktails.
Vous savez que 98% du cognac français est exporté.
Et vous savez pourquoi?
C'est les Chinois qui en consomment beaucoup. Ça fait chic au Parti communiste d'avoir son cognac.
Pour les cadeaux.
Et dans les boîtes de nuit à New York.
Exactement, c'est les rappeurs qui ont lancé la mode du cognac aux États-Unis.
Voilà. Derrière le cognac, numéro 2, le champagne, 3 milliards. Suivi par le Bordeaux, le vin de Bordeaux, 2 milliards. Le vin de Bourgogne, près d'un milliard. Et alors, ce qui progresse, c'est nouveau, c'est petit, mais ça progresse beaucoup, c'est le rosé, le vin de Provence.
Brad Pitt a acheté un vignoble. C'est pour ça. Dans quel pays exporte-t-on le plus ?
Alors, on l'a dit, numéro 1, États-Unis. Numéro 2, Royaume-Uni. D'ailleurs, on a stocké des bouteilles chez eux après le Brexit pour qu'ils aient toujours notre cam. Numéro 3.
Il parle comme un dealer.
Il y a un peu de ça quand même avec l'alcool. Numéro 3, la Chine. Numéro 4, l'Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que les volumes baissent à l'export, mais les prix augmentent. Ce qui est bien la preuve que les vignerons sont arrivés à faire ce qu'on rêve de faire dans l'agriculture en général, c'est-à-dire valoriser notre production. Vous voyez, produire moins, mais produire mieux, ce que malheureusement les autres agriculteurs n'arrivent pas à faire. Ils sont toujours dans la masse.
Voilà. Si je peux me permettre, un tout petit bémol, c'est pas forcément, ils produisaient déjà bien avant, c'est juste un marché spéculatif et donc les prix s'envolent. Par exemple, si on pense à la Bourgogne, c'est les prix montent de manière plus rapide que la qualité du vin.
Les Italiens exportent plus que nous en volume, mais ils vendent moins cher. Vous voyez, il vaut mieux exporter peu et vendre cher.
Certes.
Et voilà. Avec modération,
et
toujours.
Évidemment, toujours avec modération.
La consommation en France a baissé de 20% depuis l'an 2000.
Oui. Voilà.
Enfin, ça reste à 50 litres par habitant.
Hein,
par an.
Avant de m'assurer, parce que quand je vois Eva. Bon, bref. Eva Rock, ce soir.
Justement, série australienne en 4 épisodes que je vous recommande qui s'appelle Sauvetage en mer de Timor.
Pourquoi justement ?
C'est sur Arte, 20h55, justement, qui était beaucoup trop. Qui était en trop dans ma phrase.
Trop, oui, que...
Série australienne en 4 épisodes, tous diffusés ce soir, donc accrochez-vous, mais vous serez tenus en haleine parce qu'il s'agit bien d'un polar sur fond de crise migratoire. L'histoire est toute simple. En 2013, 5 amis s'offrent une virée sur un voilier en mer de Timor. Ils croisent une embarcation qui est chargée de réfugiés et décident de leur venir en aide. 5 ans plus tard, les 5 amis croisent la route de Bilal et sa femme Zara, qui étaient présents sur ce bateau de fortune et qui sont désormais installés en Australie. Repas de retrouvailles, mais ça tourne au drame quand Zara fond en larmes.
Vous deviez nous emmener en Australie. En pleine nuit, vous nous avez détachés. Comment avez-vous pu nous abandonner ? Sept personnes sont mortes. 7. Vous avez tué mon enfant.
Et oui, parce qu'apparemment, il s'est passé quelque chose sur ce voilier et le sauvetage ne s'est pas aussi bien passé que prévu. Apparemment, l'opération de sauvetage a tourné au fiasco. Alors, au-delà du polar ultra efficace, Sauvetage en mer de Timor est une série extrêmement intéressante parce qu'elle nous renvoie à des questions existentielles. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de ces gens sur ce voilier ? Comment réagir face à une telle situation ? Et puis, que signifient les mots solidarité, condescendance, entraide, culpabilité ? Il n'y a pas de bon ou de méchant. La série, elle évite justement les jugements faciles pour montrer toute la complexité de ces interrogations. Les acteurs sont excellents, comme la réalisation. C'est une série australienne. 4 épisodes à dévorer ce soir ou en replay, parce que sinon vous êtes parti pour vous coucher à minuit 45, ça fait un peu tard.
Oui, mais surtout pour nous, Eva.
Oui, surtout pour nous.
Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Axel de Tarlé, Mickaël Darmon. L'équipe des 3 Fantastiques sera de retour demain, peu avant 7h moins le quart.
Europe 1. Il est 6h52, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent à passer le relais à la matinale de Nikos Aliagas. Juste avant, simple formalité entre gentlemen, je vais procéder au débrief, sorte de contrôle qualité de la matinale d'hier, un exercice rieur et bienveillant dont on ne prend jamais ombrage Nikos, qui m'adore.
Tu es une ordure, Mathieu Noël.
Ah oui, commence à me demander si le surnom qu'il m'a donné, l'Otrokonos, signifie vraiment « collègue que j'aime » en grec, comme il me l'avait dit.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, mais comme dans une course de relais, on garde toujours le meilleur pour la fin. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Nikos, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant, longtemps que la glace est brisée. On va peut-être se trouver des petits surnoms, une idée ?
Ma femme m'appelle la Moussaka.
Ah, j'aime beaucoup votre femme. Très beau surnom, vous lui transmettrez. Alors, quid de l'émission d'hier ? Belle prestation, digne de celle du PSG à Old Trafford. On va plutôt partir sur Old Trafford. Mais belle prestation, disais-je, avec notamment encore une grosse performance de Laurent Cabrol, qui fait partie de ces joueurs qui, à l'instar d'un Pelé, d'un Platini ou d'un Ronaldo, sont des créateurs. Balle au pied, Pelé était un génie qui réinventait constamment le football. Mot en bouche, Lolo est un génie du français qui réinvente constamment le français. Une langue qu'il enrichit jour après jour de nouveaux mots au gré de son inspiration. Hier, gros boulot pour les sages de l'Académie française qui ont dû enregistrer pas moins de 2 nouveaux mots inconnus au bataillon.
Oui, et avec un temps extrêmement brouillasseux ou brouillard ou brouilleux, comme vous voulez, enfin bref, brumeux, tout ce que vous voulez.
Dans le Larousse 2020, à la lettre B, on trouvera donc désormais brouillassou et brouilleux, ce dernier terme désignant, je cite, un petit brouillard brouillassou à tendance brumiforme. Laurent, qui n'est pas qu'un déformeur de mots, mais aussi un déformeur de vannes. Mardi, il tentait une vanne qui, sur le moment, de la manière dont il l'avait exposée, nous avait échappé. 24 heures plus tard, le temps de vérifier sur vanagogo.com, le site de référence des amoureux de l'humour, il était en mesure de rectifier le tir.
C'est vrai que la chute des cheveux, c'est la seule maladie où il n'y a pas de repousse. Et je me suis trompé là, dans la vanne sur les cheveux. C'est la chute des cheveux, c'est la seule maladie où il n'y a pas de rechute.
Ah, c'est sûr que là tout de suite on comprend mieux.
Ah oui, c'est plus drôle que repousse.
Ah bah oui. Afin de s'excuser pour la jeune occasionnée, il nous a fait de l'aspalès en prime. Je sais pas si vous avez entendu. Enfin, last but not least, en cette Saint-Valentin, cette fête des amoureux, il nous faut saluer cet événement aussi insolite qu'incongru hier. Incongru car en effet, hier la sensualité et l'instant sexy de la matinale est venu de là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire de Jean-Pierre Chevènement. JP qui a bien cogité et qui a accouché d'une belle idée qui plaira autant aux fans de droit constitutionnel qu'aux libertins échangistes.
Donc,
vous repasseriez au septennat ?
Alors il y a deux possibilités à mon avis, c'est soit 5-7 ans, hein, ou alors on fait 6 ans, 4 ans. Le sexennat.
I'm sexy and I know it.
Sexennat.
Le sexennat, JP. Bonne idée, ça marche.
Trop fort. Vous êtes trop fort. Vous dansez bien, vous ondulez bien.
J'ondule fort bien, comme tous les Suisses. C'est dans notre sang.
Vous êtes un Helvète, en fait, en vrai ?
Pas du tout.
Demandez
je suis né en Suisse, mais mes parents sont français.
Nicolas, demandez le petit nom, le petit surnom de Mathieu.
C'est lequel, votre petit surnom ?
Cacahuète ?
Non, c'est pas cacahuète.
Si, c'est cacahuète. C'est modeste,
ça m'a bien.
Arrêtez de faire les faux modestes. Tout le monde sait qu'on vous appelle le boa dans le couloir.
C'est nouveau, mais je prends aussi.
Mathieu Noël et Eva Rock. Bonne journée, les amis.
Bonne journée à vous, Nikos.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.